Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, il est 18h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Une commission de suivi et de contrôle des activités des ONG opérant au Mali a été mise en place par le gouvernement. Des observateurs préviennent que l'État aurait dû épargner le volet humanitaire. Dakar, Niafunké, en passant par Tonkaï, dirait l'ambiance est bonne à vivre dans le bateau. Comment se présente le commerce aux arrêts sur le berge du fleuve Niger? La réponse dans ce journal. Les préparatifs des fêtes de fin d'année sont timides à Bamako et à l'intérieur du pays. Dans la rubrique On en parle, des citoyens déplorent la conjoncture économique et l'insécurité. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous seront développés dans un instant. À la présentation, Imran Akilo Maïga. Le gouvernement vient de créer une commission de suivi et de contrôle des activités des ONG opérant au Mali. L'initiative vise à mieux suivre le flux financier et conformer ces organisations aux standards internationaux pour le bien-être des populations. L'annonce a été faite ce mardi 20 décembre par le ministre d'État et ministre de l'administration territoriale en présence des structures non gouvernementales au Mali. Draman Maïga pour plus de détails.
Face aux responsables des ONG et fondations, le colonel Abdoulaye Maïga insiste sur le contrôle de leurs activités respectives. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, si aucune inspection n'est mise en place, il y a un risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et ce, malgré les contributions non négligeables des associations, ONG et fondations, affirme-t-il. Cette activité de contrôle et suivi sera assurée par la commission de réflexion mise en place il y a un mois. Elle va mieux assainir les interventions des partenaires, indique le ministre d'État. Toujours selon le colonel Abdoulaye Maïga, cette instruction prise par les autorités de la transition permettra d'exécuter pleinement et effectivement le décret adopté le 21 novembre dernier interdisant les activités des ONG financées par la France au Mali. Pour rappel, il y a un mois, cette décision a été prise par Bamako pour répliquer à la suspension de l'aide publique au développement au Mali annoncée par Paris.
Près de 300 organisations non gouvernementales françaises ou financées par la France ont déjà été détectées par la Commission. Pour les politologues, cette commission fera forcément son travail. Toutefois, pour Alousseni Gundo, analyste politique, le volet humanitaire aurait dû être épargné. Il est joint par Abdoulaye Touré.
Tout est parti de la crise diplomatique et cela crée d'abord les chômages. En plus de l'arrêt et de l'estop de l'élan de la solidarité humanitaire que ces organisations internationales font pour les pays en situation difficile qui n'est pas que le Mali. Et surtout aujourd'hui, le Mali se trouve dans une situation où les populations sont la plupart abandonnées par les services de l'État. Ça, c'est la conséquence la plus majeure, notamment la conséquence humanitaire en termes d'appui, d'assistance sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire et sur le plan même kit scolaire. Cette commission, elle a été mise en place pour ça. D'ailleurs, cette commission pourra mouiller le maillot, mais qu'à cela ne tienne toujours, il y aura des échappatoires.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. C'est une ambiance bon enfant à l'arrivée du bateau aux différents points d'escale. Dakar à Niafunké, en passant par Tonkaï, dirait pour un moment d'arrêt. Les commerçants exposent leurs marchandises sur les berges. Les habitants affluent vers le bateau. D'autres passagers et bagages sont aussi embarqués à bord. Arkia Touré a fait le trajet pour nous, suivant son reportage.
C'est nuitamment que le bateau Tombouctou a accosté à Niafunké, deuxième point d'arrêt depuis son départ de Mopti. Des habitants étaient déjà présents sur les berges.
C'est un lieu aussi de retrouvailles des jeunes, des personnes âgées pour venir se faire ravitailler. On parvient que le bateau peut faire 24 sur 24 toute l'année. Vraiment, c'est une bonne chose.
Les prochaines escales sont Tonka et Direy. Là-bas, les passagers et gestionnaires regrettent le nombre insuffisant de quotas. C'est le cas des Fanta Traoré, commerçante à Tonka. Ibrahima Guindo, chef d'escale d'Irey.
Souvent, nous coïncidons avec les bateaux remplis. Il n'y a pas de place à bord. Ils nous laissent avec nos bagages. On demande une faveur.
Nous n'avons que 5 sièges. Bon, or, quand on prend l'Irey, il y a 2 cercles. Nous avons les sacres de Gundam, nous avons les sacres de Diré. C'est vraiment peu.
Quant à la question de savoir si les bateaux contribuent au développement local, la mairie n'existe pas par endroit. Sidi Mohamed Maïka, chef escale Tonka.
Avant, la commune payait la taxe. Mais maintenant, à travers les sécurités, la mairie même ne demande plus de taxes. Puisque la mairie même ne contrôle plus la ville. Il n'y a même pas de mairie. La mairie même a été brûlée.
Arkia Touré pour Studio Tamani.
6 personnes ont été désignées trésors humains vivants par le ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Pour les responsables du patrimoine culturel, c'est à la suite des enquêtes et recherches que la sélection a été faite. Qu'est-ce qu'un trésor humain vivant? Quels sont les avantages? Moulay Koulibaly, le directeur national du patrimoine culturel du Mali, il est au micro de Aboubakar Ag Mohamed Niatara et Moussa Ag Mahaha.
Un trésor humain vivant est une personne qui incarne à un certain niveau des connaissances énormes, des compétences techniques et professionnelles, le renforcement de l'identité culturelle d'une communauté. C'est un peu différent hein, pour dire que je suis traduit thérapeute, je sais soigner telle maladie. Quand vous allez sur cette personne, les populations elles-mêmes vont dire que non, cette personne a soigné telle maladie. Ou si la personne n'était pas là aujourd'hui, peut-être qu'on aurait dû regagner d'autres contrées, d'autres communautés pour se soigner. C'est suite à nos enquêtes sur le terrain, dans tout le Mali, à travers les directions régionales de la culture, à travers les missions culturelles, que nous sélectionnons maintenant ce qu'on appelle les trésors humains vivants.
À Kita, une partie de chasse organisée par deux jeunes amis le lundi dernier a tourné au drame. L'un des amis a involontairement tiré sur l'autre, le tient sur le cou. L'incident se produit dans la zone de Boulouli. Selon des sources locales, les deux jeunes tous de la ville de Kita sont membres de la confrérie de chasseurs du cercle de Kita. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, a été inhumée le même jour. Pour un rappel, c'est la dixième fois en 3 ans qu'entre deux compagnons de chasse, l'un se trompe de cible en tirant sur l'autre. L'affaire est en ce moment au niveau de la justice. La direction régionale de l'hydraulique de Tombouctou invite les populations riveraines des zones inondables à la vigilance. Selon elle, à la date du 19 décembre 2022, les hauteurs d'eau observées à Diré et Koriomé sur le Niger sont supérieures à celles de l'année dernière à la même période. En perspective, les niveaux d'eau sont en tendance à baisser à Diré sur le fleuve Niger et la montée devrait se poursuivre notamment à Rarous, ajoute-t-elle. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les préparatifs dans la capitale restent pour l'air timide. Cette timidité est également perceptible à l'intérieur du pays, notamment à Sikasso et à Tombouctou. Écoutons ces quelques réactions recueillies par Ali Cissé avec l'appui de nos correspondants locaux.
Chez nous à Sikasso, en réalité, la décoration pour les fêtes est timide pour le moment. Mais il faut faire cas aussi de la crise qui prévaut actuellement au Mali.
Ici à Bankas, on prépare la fête de fin d'année en groupe, en grain. Tout le monde se mobilise. Les gens ont payé des poulets. Tout le monde fait ça ici à Bankas. Mais à partir de juin, tout le monde arrête de passer avec l'insécurité ici. On ne peut pas bien s'amuser jusqu'à l'aube.
Je suis à Tombouctou. La fête de fin d'année, c'est comme tous les jours pour moi. Je ne suis pas dans cette optique où tout le monde se lève, part au salon pour se donner une beauté, payer des habits.
Pour Flabé et Maïna, il n'y a aucun signe qui montre que vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive.
Il n'y a pas de décoration, pas de mouvement.
Comme les années précédentes, à Baflabé ici, moi je n'entends même pas quelqu'un qui parle de fête de fin d'année.
Autrefois au Mali, autour du plat en famille, il existait des règles d'or dont le jeune était tenu de respecter. Si cette pratique existe toujours chez certaines ethnies, elle tend à disparaître chez d'autres. Notre chroniqueuse Aïssata Diarra nous amène faire une immersion dans quelques pratiques.
Allons d'abord chez les Bambara. D'après Soumana Kane, historien à Ségou, au moment du repas, les Benjamins ne doivent jamais être les premiers à se laver la main. Ah non, c'est là par respect pour les aînés. Et pendant les repas, ils ne fixent pas les aînés non plus. Partons à présent à Tombouctou, où un jeune doit s'asseoir correctement sans regarder ni à droite ni à gauche pendant les repas, d'après San Shirfi Alpha, notable de la ville. Même si il est rassasié, le Benjamin est tenu de rester assis autour du plat. Car à la fin du repas, c'est à lui de débarrasser les assiettes et de nettoyer les lieux. Il n'en est pas moins chez les Sénoufous de Kapolodougou, selon Klesiye Sanogo. Tout le monde doit être au rendez-vous et seules les personnes âgées sont habilitées à prendre un siège et les jeunes s'accroupissent. Et après le repas, on ne se lave pas les mains pour ensuite balancer les gouttes d'eau sur l'entourage. Ah non, on remercie et seul l'aîné a le droit de répondre au nom des autres. Tous ces principes avaient pour but d'inculquer certaines valeurs aux jeunes telles que la sobriété, la modestie, l'humilité, affirment nos interlocuteurs.
Voilà qui met fin à cette édition du 21 décembre 2022 présentée par Imran Akilou Maïga, dont vous avez la possibilité de réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant sur Viamo 37 321. 10 à 15% des consultations au niveau des services de gynécologie dans les structures hospitalières au Mali sont motivées par les infections. Les spécialistes de santé font le diagnostic de plusieurs types d'infections avec différents modes de transmission. Les obstacles aux soins et les facteurs sociaux sont des freins à sa prise en charge. À cet effet, des patients estiment que le traitement médical est peu efficace face au traditionnel. Alors, comment se fait la prise en charge des IST au Mali, des réponses dans ce magazine santé réalisé par Fatoumata Kodjo avec la contribution de nos correspondants locaux.
Les diagnostics des maladies sexuellement transmissibles semblent être répandus à Bamako et à l'intérieur du pays. Pour Dr Modibo Djangina Soumaré, gynécologue au centre de référence de la commune 3 du district de Bamako, les voies de transmission sont multiples.
C'est essentiellement le rapport sexuel non protégé d'une personne infectée qui va s'accoupler avec une autre personne. La femme enceinte infectée peut contaminer son enfant. Ça, c'est le cas de la gonococcie, le cas de la syphilis, l'hépatite B et le VIH qui se transmettent de la mère à l'enfant par voie placentaire.
Des centres se sont spécialisés dans le traitement de ces infections afin de lutter efficacement contre les maladies sexuellement transmissibles. C'est le cas de Arca Santé Plus. Le coordinateur du centre, Amadou Ban, prévient que plus une infection est détectée tôt, plus le traitement est efficace.
Donc, c'est des personnes qui vous arrivent en consultation, des gens qui vous disent « Docteur, au moment d'uriner, ça me fait mal, ça brûle, il y a un liquide blanchâtre qui sort ». Et la partie génitale me démange, j'ai des douleurs pendant les relations sexuelles. Ou bien il y a certains qui vous arrivent, docteur, il y a des petites plaies qui sont sur les parties génitales. Donc, une fois que vous avez ça, il faut penser à une IST.
Selon certains témoignages, la formation médicale ne parvient pas non plus à répondre efficacement aux besoins de traitement de cette maladie. C'est pourquoi des patients préfèrent opter pour le traitement traditionnel.
Moi, je l'ai eu. Je l'ai soigné avec les médicaments traditionnels, puis pharmaceutiques. Ceux-là sont plus efficaces que les médicaments traditionnels. J'ai contracté une IST. Je suis allée à l'hôpital. On m'a prescrit beaucoup de médicaments chers. Je les ai pris et cela n'a eu aucun impact. Quand je m'étais rendu compte de ma maladie et que ça n'allait pas, j'ai fini par me rendre à l'hôpital pour prendre du sang. Ils m'ont prescrit des médicaments et aujourd'hui ça va. Ici à Bankas, quand quelqu'un s'aperçoit d'une IST chez lui, s'il ne va pas rapidement à l'hôpital, cela va lui causer des problèmes.
La honte de déclarer ces maladies rend son traitement difficile chez les patients. Binata Maïka, infirmière au CESCOM de Bakas, dit faire face à ces cas.
Il faut connaître la maladie pour pouvoir la soigner. Que la personne s'adresse à toi. Beaucoup de personnes ont honte de cette maladie et la cachent. Dans ces cas, la maladie pourrait avoir des complications. Alors que si on informe à temps, en sachant que c'est une IST, on peut la soigner de façon abordable. Certaines ONG même les soignent gratuitement. Il suffit juste de se présenter.
Au-delà des douleurs engendrées, ces maladies provoquent des troubles gynécologiques et psychologiques chez les patients qui en souffrent, explique Dr Modibo Djangina Soumaré.
Ça peut poser des problèmes urinaires, écoulement purulent, appelé les urines, ou alors souvent même rétention aiguë d'urine chez l'homme, l'adénome de la prostate ou les prostatites. Chez la femme, les complications sont à type d'avortement. C'est les femmes qui sont à risque de grossesse extra-utérine et la conséquence traumatique psychologique.
Une bonne hygiène de vie, l'abstinence et la fidélité sont entre autres les moyens de prévention et de lutte contre les infections. C'est la fin de ce magazine santé réalisé et présenté par Fatoumata Kodjo. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro.